Bon, moi j'ai hérité d'une question qui est pertinente, qui est intéressante. Mais bon, suite à l'intervention de John hier, je pense que j'ai adopté un principe d'humilité et un principe de précaution sur la manière dont je vais l'aborder. Donc je vais simplement vous relater ce que nous on met en place, et encore une fois avec beaucoup d'humilité, parce que je reprécise que l'entreprise n'a que 7 ans et qu'aujourd'hui on fait un peu ce que d'autres ont déjà fait, sauf qu'on le fait et effectivement parce qu'on a déjà des convictions assez fortes et qu'aujourd'hui on a des projets assez, enfin, on dirait à long terme, donc qui s'inscrivent dans cette continuité. Juste pour revenir très brièvement, et parce qu'hier je pense que c'était important aussi de refaire un peu de sémantique et de repréciser de quoi on parle pour que il n'y ait pas d'incompréhension sur les termes. Aujourd'hui, quand je dis qu'on a une palette d'outils à disposition, on a travaillé depuis 7 ans sur la typologie des sites en collectivité, donc en partenariat avec les collectivités pour répondre à leurs problématiques. Et on a segmenté 5... donc c'est très commercial le mot segment, mais ça permet de bien comprendre qu'il y a des tiroirs dans lesquels on peut aller chercher des solutions. Le fleurissement, pour nous, c'est une prairie fleurie annuelle avec des fleurs horticoles. On crée un décor dans un univers très urbain, là où le fleurissement traditionnel a ses limites. Donc, c'est-à-dire que on s'oppose pas au fleurissement traditionnel. On sait qu'aujourd'hui, il a un coût. Il est coûteux en termes d'intrants, de supports végétaux, de temps, de gestion. Et qu'aujourd'hui, sur des grands espaces périurbains qui se sont créés récemment, on peut intervenir via des prairies fleuries. Et donc, avoir un peu moins d'intrants utilisés, type phyto, créer une scène florale qui rentre dans la politique de fleurissement. On est uniquement sur du décor. Donc, ça s'appuie sur des espèces, horticoles, on le sait. Mais alors, nous, on l'a appelé prairie fleurie ornementale. Donc, dans une stratégie de fleurissement, on n'est pas du tout dans une logique d'amélioration de la biodiversité. On crée du décor, on accompagne et on fait en sorte que la ville soit esthétique. L'aménagement, on est dans le même registre, mais on rentre avec une deuxième classification, c'est-à-dire qu'on y associe des vivaces et on fait en sorte que ces prairies soient pérennes. On crée un décor de première année avec des annuels, un décor de deuxième année avec des vivaces. Et on fait en sorte que on puisse diminuer l'entretien des espaces. Nous, on appelle ça des solutions d'aménagement. On va plutôt chercher à diminuer l'entretien des zones périurbaines. On a nommé une gamme biodiversité. C'est là où on travaille sur un concept qui nous est propre, qu'on explique, c'est-à-dire pouvoir œuvrer en faveur de la biodiversité, notamment animale. Donc c'est en faveur des papillons, c'est en faveur des auxiliaires, c'est en faveur des oiseaux, c'est en faveur de problématiques vraiment spécifiques liées soit à des producteurs, soit aux collectivités. Ça va être un mélange PBI, de telle sorte à ce qu'on ait une fixation des auxiliaires autour de la serre. On est sur un mix entre horticoles et sauvages. On a des horticoles pour le côté annuel et on va avoir aussi des sauvages pour le côté pérennisation. C'est très rare chez nous d'associer les deux, mais on peut se retrouver avec un intérêt très important, notamment sur des hypericums, des vivaces de deuxième année par exemple, qui peuvent être très fixatrices d'auxiliaires. Ensuite, on fait une deuxième classification, et là on intervient avec parcimonie, j'ai entendu le mot cicatrisation hier, j'ai entendu revégétalisation, restauration de milieu quand il faut effectivement intervenir. Pour nous, c'est positionner un capital semence à partir de fleurs sauvages quand on intervient sur un milieu naturel. On est assez sectaire dans le sens où, quand on dit milieu naturel, par exemple, une collectivité aujourd'hui, si on fait l'historique des mouvements de terre, des interventions humaines, on n'est plus du tout dans un milieu naturel. Et on estime qu'on ne doit pas faire payer un surcoût à la collectivité, notamment par l'usage de fleurs sauvages, ce qui n'est pas forcément la semence la plus adaptée. Et enfin, la végétalisation, on est plutôt sur l'association de semences graminées, fétuques, etc., avec un pourcentage de fleurs qui est plus restreint. Ça, c'est de sorte à ce que le consommateur puisse comprendre aussi qu'on ne parle pas de la même chose. Un 90% graminé et un 10% fleurs, ça coûte 70 à 80% moins cher qu'un mélange 100% fleurs. Par contre, on n'a pas le même résultat au final. On n'a pas la même densité, on n'a pas la même couverture. Mais en adaptant les densités de semis, on arrive à faire cohabiter des graminées type fétuque avec des fleurs sauvages. Dans les faits, ça donne ça, hein, très clairement, la partie décor, on est vraiment sur des zones de transition, accompagnement du fleurissement traditionnel. Là, on est sur une zone de troisième année que Clément a été voir cette année, donc qui se régénère également. Donc sur une zone plutôt périurbaine, plutôt extensive, où là, on fait un accompagnement des gabions. On est vraiment dans une stratégie d'aménagement. Mais par contre, on fait en sorte que le public accepte cette zone et que l'entretien soit clairement différencié et diminué au maximum. La partie biodiversité illustrée par un mélange en faveur des auxiliaires à l'entrée des serres. On n'est plus du tout sur de l'ornement, hein. On est sur l'association des végétaux qui permettent de fixer un maximum d'auxiliaires. Et ensuite, la gamme fleurs sauvages, donc, qui permet d'avoir des réaménagements, insertions dans des milieux naturels, ou la gamme végétalisation pour des grands espaces où l'objectif prioritaire n'est pas forcément d'avoir une diversité florale pour le côté esthétique, mais plutôt pour le côté ne pas implanter un mélange trop concurrentiel et qui ne favoriserait que les graminées, où on aurait une diversité spécifique qui serait très faible à terme. Pour répondre à la question, et pour avoir terminé cette partie un peu sémantique, aujourd'hui, la méthode qu'on a mis en place, avec, encore une fois, hein, nos sept petites années d'expérience, c'était un travail participatif avec des gens qui avaient de l'expérience, donc avec des partenaires européens, allemands et essentiellement anglais, avec qui on travaille le principe de multiplication des espèces et le principe de collecte. C'est finalement les deux grands principes pour mettre à disposition des espèces de fleurs sauvages aujourd'hui à disposition des collectivités, à destination des aménageurs. L'objectif pour nous, il est double. Il est un, effectivement, de pouvoir augmenter le disponible pour les collectivités, c'est-à-dire s'il y a une réponse à apporter, comment on l'apporte et est-ce qu'on peut l'apporter. Et le deuxième, il est indiqué juste au-dessus de l'espace avec les coquelicots, c'est préserver les écotypes et sites de récolte. C'est-à-dire qu'il faut aussi mettre des garde-fous sur comment on met à disposition ces espèces. Et si on a un site naturel qui est un formidable puits, une réserve de telle ou telle variété, ne pas la mettre en péril au moment où on va collecter sur ce site. Donc il faut aussi fixer des règles en amont pour pas se rendre compte à terme qu'on aura mis en danger des sites naturels pour pouvoir revégétaliser des zones dont le résultat final n'est pas du tout mesuré. Donc là, ça c'est un garde-fou qu'il faut impérativement s'imposer. Nous concernant, sur la partie de nos besoins, on est autour de 90 tonnes annuelles, ce qui représente entre 130 et 170 hectares selon les années, selon la prise de risque qu'on accepte de faire chaque année. Ça comprend essentiellement l'horticole, puisqu'on est aujourd'hui sur 7 à 10% de notre activité qui est représentée par les fleurs sauvages. Donc, très clairement, les zones de production sont essentiellement sur des essences horticoles. La maîtrise de l'horticole est beaucoup plus simple aussi en termes de culture. Il y a un passé plus fort de par les agriculteurs, de par les partenaires sur la mise en production de fleurs horticoles. Le développement de l'entreprise, il s'est basé sur la mise en contrat de production. Il y a des gens qui savent faire, on leur confie, on fait intervenir des partenaires, on les sélectionne. En fait, on se retrouve en véritable maîtrise d'ouvrage. On dit voilà, il faut telle semence, telle disponible, telle quantité, tel qualitatif par le suivi. Ça, c'est des choses, tous les semenciers sont habitués à mettre en place ces procédures. C'est comment on fait pour vous mettre à disposition ces essences-là. L'étape qu'on a franchie, c'est là où on rejoint plutôt le côté personnel et puis l'objectif à long terme, c'est une reconversion des fermes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des fermes très agricoles, très traditionnelles. On a 150 hectares de réserve aujourd'hui. Et puis, c'était de dire comment on fait passer, chez nous en tout cas en Maine-et-Loire, une ferme qui est plus rentable, qui n'a pas su s'adapter à la modernisation et qui est en plus dans une zone un peu bocagère qui ne permet pas aujourd'hui de répondre aux nouveaux enjeux de l'agriculture. Bah, c'est comment on fait aujourd'hui pour préserver ces espaces et puis les transformer, leur redonner une vocation économique, mais en même temps avoir une action directe. Donc on est parti sur la production de fleurs sauvages avec 10 hectares de production cette année, 4 hectares en semis de printemps messicole, 3 hectares en semis sous couvert de vivaces et 3 hectares de semis d'automne en messicole. Donc là, première expérience, donc accompagnée avec les mêmes personnes qui nous ont accompagnés au tout départ, donc notamment des Anglais, et donc mise en production de ces espèces. Notre objectif à terme, il est simple, c'est d'atteindre à peu près une vingtaine d'espèces. Je rejoins très clairement l'avis qui a été évoqué hier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, focaliser sur un très grand nombre d'espèces, c'est compliqué. Il y a des espèces aussi, techniquement, on ne peut pas les produire faut bien se rendre compte qu'un producteur va pas recréer un milieu spécifique à une espèce pour pouvoir la mettre à disposition. Je pense à la Suicisa pratensis, on peut la retrouver dans le sud-ouest. Milieu plutôt sableux, limoneux, humide. Et aujourd'hui, moi, je vais pas remettre, je vais pas trouver un champ spécifique. Si je peux le faire, oui, on le fera. Mais là, on rentre dans une notion de complexité et de logistique qui pourra peut-être se faire dans quelques années. Mais aujourd'hui, on est déjà sur un contexte trop compliqué. On essaie déjà de répondre à cette problématique-là, c'est-à-dire les espèces les plus répandues en France, sur l'ensemble du territoire, qui permet de travailler, d'avoir ce capital semence qui permet de restaurer des milieux. Le processus de collecte aujourd'hui sur les espèces messicoles, alors là j'ai été un peu conforté sur le fait que de la Turquie jusqu'à la France, le coquelicot, on le retrouve à peu près partout. Sur le problème des messicoles, c'est un travail qui est compliqué parce que souvent on va aller chercher de la ressource sur les milieux naturels. Il faut trouver un champ de coquelicot, il y a des années où on ne le trouvera pas. Faut trouver de la centaurée, il faut que les champs soient retournés, qu'on ait ce développement-là et qu'on ait l'opportunité de récupérer des semences de base pour les multiplier ensuite. Donc là, c'est plutôt un programme européen où on travaille à quatre entités de telle sorte à pouvoir mettre à disposition des essences, des semences de base pour la multiplication. Et sur les espèces vivaces endémiques France, là, c'est un programme de collecte en interne avec une propriété classée SNIEF de 7 hectares sur lesquels on fait des prélèvements et un programme de collecte un peu plus important où là, on a embauché un responsable environnement qui planifie des zones de collecte pour avoir des semences de base et ensuite pouvoir mettre en multiplication ces essences-là. Par contre, programme de collecte essentiellement France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant que la société, donc Novaflore, n'a pas vocation à intervenir sur ce segment fleurs sauvages dans les pays européens, on n'appliquera pas cette méthode et on la réservera uniquement au marché français. Donc pour nous, alors pour répondre à la question, on va pouvoir y aborder parce que on va déjà aller chercher ces essences dans les milieux naturels en France. Ce qui est déjà semé, ça a déjà été le cas. Et comment est-ce que cette espèce-là reste sauvage et est-ce qu'elle reste vraiment sauvage à partir du moment où on aura déjà fait une sélection d'individus en milieu naturel et donc on aura forcément une reproduction de cette sélection. Donc perte de diversité, d'après ce qu'a pu évoquer ou nous a expliqué Johnny. Le principe de précaution pour nous, c'est déjà un isolement des parcelles, notamment sur les messicoles où on peut avoir une confrontation avec des essences horticoles. Donc ça veut dire, exactement comme la production de légumes, c'est porte-graines et c'est zone d'isolement, obligatoire. Une rotation des semences de base tous les 3 ans. Parce que, toujours dans la même logique, on peut avoir des dégénérescences dans les populations et multiplier cette dégénérescence dans le temps. On le voit par exemple sur des cultivars de centaurée, vous allez chercher un cultivar noir par exemple, progressivement il retend vers le bleu. Donc cette population, on ne peut pas la maintenir. Donc ça veut dire qu'il faut aussi resélectionner parmi l'espèce au sein de la multiplication pour faire en sorte qu'on préserve l'aspect numéro 1 pour nous dans un cultivar, c'est le côté noir. Voilà. Elle doit être noire, ou en tout cas le plus pourpre possible, et on ne peut pas accepter qu'il y ait de la dégénérescence. Donc là, c'est de la sélection en champ. Brassage des populations, plusieurs sites pour une espèce. Le site SNIEF qui est en propriété, sur lequel moi j'opère des prélèvements et sur lequel j'effectue des contrôles, en tout cas de stabilité des populations, il faut le brasser avec d'autres espèces. Parce qu'aujourd'hui, on aura sinon une multiplication d'une espèce vraiment localisée. Et ça, c'est des éléments que j'ai adaptés hier soir par rapport à l'intervention. C'est des choses qu'on n'avait même pas appréhendées dans la démarche. Donc, c'est des choses qu'il va falloir aussi améliorer et travailler. Donc, avec des gens qui sont plus spécialistes, en tout cas au niveau génétique. Et puis, des contrôles de routine, ça, c'est démarche qualité. C'est être aussi en même temps capable à chaque étape d'effectuer ces contrôles. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une production, on établit des contrôles de routine. Et là, aujourd'hui, il faudra effectivement appliquer ce type de démarche qualité aussi sur la sélection des semences. L'expérience, bon, là, je viens de vous expliquer, hein, l'expérience des productions horticoles, c'est effectivement faire cette segmentation. Ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle le process logon track, c'est le nom d'un logiciel qui nous permet d'avoir un suivi plurimodulaire, c'est-à-dire à plusieurs niveaux. au niveau du produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la semence entre chez nous, on peut la suivre en termes de zone de collecte, zone d'implantation et quantité, année, taux de germination, etc. C'est la fiche d'identité de ce qui rentre. Et on va pouvoir la suivre dans toute la vie du produit, c'est-à-dire stockage chez nous, sortie, intégration mélange, re-rentrée dans le mélange, suivi jusque sur le site. Et si aujourd'hui, on voit, par exemple, 3 ans après, des choses qui n'étaient pas espérées, ben, on sait qu'avec avec le numéro d'identifiant et le numéro de lot, on peut remonter jusqu'à la zone de production. Ça, c'est un logiciel assez puissant qui va nous permettre d'avoir une traçabilité intégrale et de dire, voilà, effectivement, on était sur des populations qui étaient présentes dans tel milieu. Et enfin, c'est par rapport à ce qu'a pu évoquer John hier. Effectivement, si on vient déjà sélectionner des espèces dans un milieu naturel, on va avoir une sélection de l'espèce, on va la calibrer dans un standard et qui sera pas forcément qui permettra pas un brassage suffisamment important pour que la diversité de l'espèce se multiplie comme elle pourrait le faire dans la nature, puisqu'on intervient clairement sur le milieu. Donc c'est la limite sur laquelle il y aura de toute façon toujours un principe de réserve. C'est aujourd'hui les seuls éléments qu'on a, nous, en tout cas, à notre disposition, pour dire, voilà, si effectivement on doit utiliser des essences de fleurs sauvages pour réhabiliter des milieux, pour cicatriser des milieux, parce qu'il y a une nécessité d'aller plus vite et que on veut pouvoir avoir une dynamique des populations qui se fasse très rapidement sur tel ou tel site, et en plus on intervient en milieu naturel, on aura quand même toujours un petit garde-fou sur les espèces, puisqu'on aura opéré, on sera intervenu, et on aura forcément modifié un peu la dynamique de cette espèce-là. C'est tout ce que je peux, en tout cas, vous dire sur une question qui est extrêmement intéressante, mais extrêmement compliquée aussi, avec toute la réserve que je peux appliquer sur ce sujet.
Ok, super, merci. Tout de suite, quelques remarques. Oui.